RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, vous avez choisi RCF et vous avez bien raison. Bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Les célibats, ce sera notre sujet d'aujourd'hui. Alors vous l'avez peut-être remarqué, les célibats sont aujourd'hui multiples et ils peuvent être définitifs, prolongés, temporaires, de parenthèses, de circonstances, prénuptiales, consacrées, involontaires, festifs, transitoires, volontaires, laïques, religieux. Bref, aujourd'hui, la diversité des pratiques. Vous connaissez comme moi le non-mariage, la non-conjugalité, la chasteté, le non-engagement, la non-cohabitation. Eh bien, cette diversité des pratiques vient percuter les visions traditionnelles du célibat, ou plutôt des célibats, car c'est un mot, un statut qu'il faut conjuguer au pluriel. Nous allons le voir avec nos invités avec lesquels nous allons mener l'enquête aux sources du célibat et des célibats. Dominique de Montléon-Cabaret, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes co-autrice avec Claire Le Secrétin, ancienne journaliste à La Croix, d'un petit livre intitulé « Célibataire, votre vie a un sens ». De nouvelles perspectives en Église, c'est publié aux éditions Saint-Paul. Vous vous adressez à de nombreux publics de célibataires. Depuis 1988, vous travaillez cette question. Et puis nous sommes en compagnie de deux jeunes chercheuses. Claire-Lise Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire contemporaine. Votre thèse a porté sur le marché de la rencontre en France du 19e siècle au début du 20e siècle. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Et vous êtes co-autrice avec Juliette Emeou, qui est également avec nous depuis nos studios de Lyon. Bonjour Juliette Emeou.
Bonjour.
Vous êtes co-autrice d'un livre intitulé « Histoire de célibat au pluriel, du Moyen-Âge au XXe siècle ». C'est publié aux Presses universitaires de France. Je précise donc que Juliette Emeou est docteure en histoire moderne et sa thèse à elle a porté sur le célibat dans la noblesse française d'Ancien Régime. Vous avez donc brossé dans votre livre une galerie de portraits que nous allons parcourir dans quelques instants. Voilà notre thème aujourd'hui, donc le célibat. Quel célibat au pluriel, d'hier à aujourd'hui?
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Alors je me tourne d'abord vers Juliette Emeou. Vous avez publié avec Claire-Lise Gaillard, pardon, qui est en studio avec nous, une histoire des célibats, naissance d'un statut social. C'est publié aux Presses universitaires de France, au PUF. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce sujet, Juliette Emeou? Et rassurez-vous, je poserai la même question à votre consoeur Claire-Lise Gaillard.
Alors peut-être d'abord une petite précision, ce livre, on l'a écrit à plusieurs, pas oui. Seulement Claire-Lise et moi.
Vous avez raison de le préciser.
Juste pour préciser, oui, on est 10 auteurs, autrices dans ce livre
et vous ne manquerez pas
chaleureusement
de rappeler leur nom tout à l'heure. Alors donc ce sujet, voilà. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce sujet en tant qu'historienne?
Alors je pense que c'est parti déjà d'une curiosité, parce oui. Que j'avais lu des choses sur la domesticité à Paris au XVIIIe siècle, il y a de ça, on va dire, une dizaine d'années, et un constat fait par les historiens et historiennes de l'importance du célibat dans cette catégorie sociale. Et puis quand il a fallu choisir un sujet de mémoire et puis de thèse, j'avais cette question du célibat qui était restée très présente. En recherchant un petit peu, j'avais constaté qu'en France, c'était un manque dans l'historiographie.
Ah oui.
Il y avait très peu de personnes qui s'étaient intéressées au célibat, en tout cas pour les époques un peu plus reculées. Mmh. On a beaucoup de travaux hein, de sociologie et même d'histoire contemporaine sur le XXe siècle, mais il n'y avait pas vraiment... Enfin, personne ne s'était vraiment emparé de cette question du célibat pour l'époque moderne.
Je vois que Claire-Lise Gaillard confirment votre propos. Pour quelle raison, vous, Claire-Lise, vous êtes-vous investie dans ce sujet?
Oui, je le confirme tout à fait. Pour ma part, c'est parce que mon sujet de thèse portait, comme vous l'avez dit, sur le marché de la rencontre. Et de fait, ce marché de la rencontre, donc les agences matrimoniales, les petites annonces de rencontre qui naissent à partir du début du 19e siècle, s'adressent à des célibataires.
Oui.
Et même vent debout contre le fléau des célibataires. célibataire et du célibat.
Le fléau.
Le fléau, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, oui. Notamment dans les moments où on craint une dépopulation du pays. Mm-hmm. Et donc, je m'intéressais à ce marché, à ces commerces, en fait, qui ciblent,
oui,
les célibataires.
Oui, c'est un véritable marché.
Tout à fait. D'accord. Dans les deux sens du terme, c'est un marché parce que c'est quelque chose qui rapporte de l'argent à ceux qui
le mettent en œuvre.
Et en même temps, lorsque les célibataires se proposent en mariage, il y a aussi des échanges symboliques qui se font entre les individus. Et donc l'intérêt pour le célibat, il est venu parce que, de fait, les individus que j'étudiais dans les annonces sont des célibataires avec des statuts différents. Mm-hmm. Des célibataires qui sont en âge de se marier, des célibataires
tardifs. Il y a des jeunes, il y a
tardifs,
des vieux,
voilà.
Il y a des riches, il y a des pauvres.
Des veufs aussi, sont en situation de pas être mariés, donc de non-mariage. La question, c'est vraiment formalisée comme une question de recherche spécifique dans la rencontre avec Juliette, quand on a comparé en fait ce que vivaient nos célibataires à deux époques différentes, pour Juliette à l'époque moderne et puis pour moi à partir du 19e siècle, et on a constaté qu'il y avait des changements.
Il faut préciser l'époque moderne dans un langage d'historien.
Voilà, dans un langage d'historien avant la Révolution française, pour
voilà.
Le dire très vite.
Merci de le préciser parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Dominique de Montléon Cabaret, vous travaillez depuis très longtemps sur le sujet du célibat, depuis 1988. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous y intéresser ?
Eh bien, le fait que j'étais célibataire, oui. Tout simplement, et qu'il n'y avait pas grand-chose sur le sujet à l'époque, et que j'avais beaucoup d'amis, mariés ou célibataires, avec lesquels je pouvais discuter de ces questions librement. Donc, ça libère la parole. Du
C'était coup, une sorte réfléchi. De sujet tabou à l'époque ?
Je ne sais pas si c'était un sujet tabou, je ne pense pas. C'était pas un sujet, plutôt.
Même pas un sujet, oui.
Oui, parce que ça n'intéressait pas à cette époque-là. Il y avait deux voies, évidemment, le mariage et la vie consacrée pour l'Église, et puis voilà.
D'accord. Et donc, vous avez choisi d'investiguer, de travailler un peu l'histoire du célibat, la diversité des célibats ?
Alors, l'histoire, pas du tout. Je ne suis pas du tout historienne. Mmh. Je suis bien contente d'être avec des historiennes pour cette émission.
Oui.
Le sens, plutôt. Le sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ce désir de mariage chez beaucoup qui ne se réalise pas ? Non pas tant pour chercher les causes, parce qu'on veut toujours trouver plein de causes, et effectivement, il peut y en avoir, mais pas toujours, ce sont les mystères de la vie. Mmh. Et alors, qu'est-ce que ça signifie ?
D'accord. Alors, je me tourne vers l'historienne Claire-Lise Gaillard. Vous écrivez, alors quand je dis vous, je ne sais pas qui écrit, mais c'est peut-être vos quatre mains avec Juliette Aimeou. Vous écrivez au début de votre livre « Nombreuses sont les injonctions sociales qui, encore aujourd'hui, tendent vers l'idée qu'une vie se construit à deux et que la conjugalité mène à la parentalité ». Peut-on parler encore aujourd'hui, Claire-Lise Gaillard, d'une stigmatisation des célibataires ?
D'une certaine mesure, c'est une norme qui existe encore. Alors, elle s'est affaissée parce que la stigmatisation des célibataires a été en fait renforcée à partir du 19e siècle. Mais des sociologues comme Marie Bergström et la démographe Sandra Bray, qui ont travaillé sur le célibat aujourd'hui, montrent bien que l'injonction à être en couple reste la plus forte. Et donc, le couple comme horizon de réalisation de soi se porte très bien dans l'imaginaire social. Et donc, forcément, le célibat est moins stigmatisé qu'il ne l'a été par le passé, mais il reste l'idée qu'il ne doit pas trop s'éterniser et que l'horizon de réalisation personnelle reste quand même le couple.
Dominique de Montléon Cabaret, vous partagez ce constat d'une certaine stigmatisation qui serait encore en vigueur avec un statut du célibat qu'on souhaiterait provisoire ?
Alors, une stigmatisation peut-être pas, mais dans le sens de regard négatif sur la personne célibataire, je ne pense pas. Je crois que les yeux se sont ouverts beaucoup dans le sens, au contraire, du respect.
Oui.
Mais du fait que, effectivement, solitude ne rime pas forcément avec bonheur.
En dépit de, comment dire, on constate que sur le marché de la publicité, par exemple, on s'intéresse de plus en plus aux personnes qui vivent seules. On considère qu'il y a un marché, on considère que c'est une ouverture possible. Est-ce que vous constatez ça ?
Tout à fait. Il y a deux courants, si je puis dire. Le courant un peu égocentrique, je dois me réaliser moi pour moi, être heureux pour moi, etc. Et ce courant s'est peut-être développé parce que dans l'autre courant, on vit pour l'autre et on trouve son bonheur en cherchant le bien de l'autre, selon la définition déjà d'Aristote, on oubliait que le côté bonheur dans cette voie-là, on y voyait un peu le sacrifice trop, et le côté bonheur était un peu gommé. Du coup, les deux points s'étaient cristallisés un peu dans un sens et dans l'autre.
D'accord. Alors, Juliette Aimeau, vous qui êtes historienne, est-ce que vous pouvez nous préciser quand le célibat est-il apparu en tant qu'objet d'étude, en tant que statut singulier, en deux mots, les origines de l'histoire du célibat?
Alors, moi, ce que j'ai constaté dans mon travail de thèse, c'est que le mot célibataire, dans les dictionnaires français, apparaît au XVIIIe siècle.
Mais pas avant.
Pas avant. Oui. Alors, avant, on emploie d'autres termes. Par exemple, pour désigner les femmes célibataires du XVIIe siècle, on va parler de filles majeures. Dans les généalogies, on va avoir des expressions comme « sans alliance » ou « sans postérité ».
Mais donc toujours en lien avec la maternité, avec la reproduction ou avec le mariage.
Oui. Exactement. Mmh. Exactement. Et donc le terme célibataire apparaît tardivement dans les dictionnaires français, parce qu'en fait je disais 18e, mais c'est plutôt la seconde moitié du 18e siècle, à partir des années 1760. Et en fait, à ce moment-là, il s'accompagne de représentations négatives, d'un jugement moral. Les célibataires, souvent, ce sont des égoïstes, des gens qui vivent... Alors, ça rejoint un petit peu ce que disait Dominique de Montléon Cabaret, des égoïstes, des gens qui vivent pour eux, et donc qui ne participent pas au bien de la nation.
Alors ensuite, cette conception, disons globalement négative, a-t-elle pu évoluer au fil des générations, Juliette Aimeau?
Alors pour le 19e siècle, je dirais plutôt que ça se renforce, cette considération négative du célibat se renforce, mais il y a là une question de genre. Au XVIIIe siècle, les célibataires, dans les exemples donnés par les dictionnaires, ce sont très clairement des hommes. Et au XIXe siècle, l'intérêt se porte davantage sur le célibat féminin, qui est vu comme un danger. Alors pour diverses raisons, Clarisse pourra compléter. Mais donc voilà, le célibat est toujours source, enfin la stigmatisation du célibat est renforcée au XIXe siècle. Et puis on a plutôt un tournant avec les guerres mondiales et les pertes masculines.
Et oui.
Et là, je vais peut-être laisser la parole à Claire-Lise sur ces sujets.
Et Claire-Lise va la prendre. Donc, ce célibat féminin vécu comme un danger, expliquez-nous, Claire-Lise Gaillard.
Oui, en fait, effectivement, il y a un renforcement de la stigmatisation du célibat au XIXe siècle qui doit beaucoup au renforcement de la norme du mariage, et notamment à partir du début du XIXe siècle par le Code civil qui installe des rôles dans le mariage dans lequel le mari doit pourvoir aux besoins de l'épouse. Et donc, celle qui ne se marie pas doit pourvoir pour elle-même. Pour ses propres
et donc c'est un problème. Vie.
C'est un problème parce que donc,
c'est
ça veut
pas
dire
prévu
qu'elle doit
dans le système.
Ça veut dire que potentiellement voilà. Elle doit travailler.
Oui.
Donc travailler c'est un indice aussi de ce qui fait la distinction entre la bourgeoisie et les classes populaires. Donc une femme des classes bourgeoises mais qui serait d'une petite bourgeoisie qui parce qu'elle ne se marie pas doit travailler, pour elle c'est une déchéance sociale. Donc il y a cette idée là déjà et qui s'associe aussi avec avec l'idée d'une naturalisation des sexes dans lesquels l'épouse doit se réaliser dans sa féminité par le mariage. Donc celle qui ne peut pas faire advenir cette féminité absolue dans le mariage et dans la maternité, bien sûr, forcément est vue comme quelque chose de pathologique. Et il y a beaucoup de discours médicaux au XIXe siècle qui pathologisent la solitude féminine, le célibat féminin, et qui font miroiter les risques de l'hystérie féminine.
Et on connaît l'origine étymologique du mot hystérie.
Voilà, ce serait un manque de l'utérus, en fait.
Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, si vous voulez bien, on va faire une première pause musicale et on va s'intéresser justement à la diversité des figures de célibataires à travers l'histoire. On va écouter le chanteur Jean Ferrat. Jean Ferrat, en 1961, nous a proposé une chanson qui s'intitule « L'éloge du célibat ». Je vous demande de l'écouter attentivement et nous allons essayer de comprendre ce que Jean Ferrat nous dit du célibat dans les années 60.
La fille que j'aurai un jour dans la peau, je crois bien qu'elle est toujours au berceau. Je ne brûle jamais à ma flamme le même bois, je suis de ceux qui n'aiment qu'une femme à la fois. Comme dit le proverbe normand familier, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je suis pas le client de monsieur le maire, Dieu merci, je suis un célibataire. Si tous les deux ou trois dimanches, en dansant, je me cueille par les hanches une enfant, je les feuille sans prélude, et tardi, je la renvoie à ses études. Le lundi, je mène ainsi bien à l'aise, grâce au ciel, dans mon année 12 ou 13 lune de miel. J'ai pas l'occasion de m'en faire, Dieu merci, je suis un célibataire endurci. Tu raisonnes de la sorte jusqu'au jour où le petit Jésus t'apporte un amour, une môme ni plus ni moins belle que beaucoup, mais qui mettra la ficelle à ton cou. On a soudain moins envie de changer, elle est si blonde qu'on oublie le danger. Et un beau soir on enterre entre amis sa vie de célibataire endurcie. Quand la morale d'une histoire est tirée, comme dit l'autre, il faut la boire de bon gré. À ma chanson, il y en a une que voici, elle me vaudra des rancunes. Mais tant pis, dans le célibat, on se ménage du bon temps. Mais son plus bel avantage, cependant, ma femme dira pas le contraire, je le parie, c'est quand un célibataire se marie.
Voilà, c'était l'éloge du célibat en 1961 par Jean Ferrat. Alors, cette édition des Racines du présent, vous l'avez compris, est consacrée à l'histoire du célibat, des célibats. Nous sommes en compagnie d'un tandem de jeunes historiennes, Juliette Aimeou et Claire-Lise Gaillard, qui publient aux Presses universitaires de France une histoire des célibats au pluriel, deux points, naissance d'un statut social. Et puis avec Dominique de Montléon Cabaret, qui est co-autrice avec Claire Le Secrétin, ancienne journaliste à La Croix, d'un livre intitulé « Célibataire, votre vie a un sens ». De nouvelles perspectives en Église, publié aux éditions Saint-Paul. Alors Claire-Lise Gaillard, vous avez écouté attentivement, comme nous tous, cet éloge du célibat prononcé par Jean Ferrat. On voit bien que c'est un célibat où, je cite, on se ménage du bon temps, on n'est pas le client de monsieur le maire, on n'aime qu'une femme à la fois. C'est un célibataire endurci. Quelle figure du célibat avez-vous entendue à travers cette chanson de Jean Ferrat, Claire-Lise Gaillard?
Là, ce qui est intéressant, c'est que ça donne vraiment à voir les représentations du célibat masculin. Mmh. Là, c'est vraiment le célibataire.
Oui.
Et ça donne à voir, en fait, le double standard de la morale sexuelle.
Oui.
Parce que, comme le dit Jean Ferrat, c'est possible pour un célibataire, jusqu'à ce qu'il se marie, d'enchaîner les conquêtes.
Voilà.
L'équivalent au féminin, renverser la chanson au féminin, ça ne fonctionnerait pas du tout.
Voilà.
La liberté sexuelle des femmes est très stigmatisée moralement au XXe siècle, et on n'envisage pas du tout que les femmes puissent avoir des expériences affectives et sexuelles légères dans la perspective d'ensuite se marier.
Dominique de Montléon Cabaret, quel regard, comment est-ce que vos oreilles ont entendu cet éloge du célibat du célibat masculin, on l'a vu, par Jean Ferrat?
Du célibat masculin vu par un homme.
Oui.
C'est-à-dire un homme qui a peur de perdre sa liberté, qui parle de ficelle, qui a peur de perdre sa liberté, qui aime mieux avoir une possibilité infinie de femmes merveilleuses.
Tous les dimanches.
Tous les dimanches, oui. Différentes. Donc, évidemment, un certain égoïsme quand même.
Oui.
Mais ça correspond, il faut le reconnaître, peut-être à une difficulté que des hommes peuvent avoir de se marier, de justement s'engager pour une femme qui forcément n'est pas parfaite. Mmh. Et du coup, plus d'autres, il faut laisser tomber les autres. Et puis, il y a une petite ficelle à la liberté, ça c'est vrai. Mais est-ce que ça rend heureux ou est-ce que ça rend malheureux ? Voilà la question.
C'est une difficulté que vous constatez comme étant contemporaine encore aujourd'hui, du côté des hommes, cette difficulté
oui.
à s'engager.
Oui.
Et donc à renoncer, parce que comme chacun sait,
voilà.
choisir c'est renoncer.
Voilà.
Mmh. Oui. Vous sentez cela ?
Oui. Mais attention, c'est pas parce qu'on voit un homme célibataire qu'il faut se dire qu'il est comme ça. On a très tendance à coller des étiquettes et des causes. C'est très
Bien.
Rassurant, les causes.
Soyons attentifs à la diversité des personnalités. Alors, on va commencer à remonter le fil de l'histoire, si vous le voulez bien, avec Juliette Aimeou et Claire-Lise Gaillard, à partir de leur livre « Histoire des célibats », publié aux Presses universitaires de France, qui dresse une galerie de portraits co-signés, Juliette Aimeou l'a dit, par une dizaine d'auteurs. Alors, je voudrais commencer, si vous le voulez bien, par les filles de Charlemagne. Alors, je ne sais pas à laquelle de vous deux je dois m'adresser sur les filles de Charlemagne. Peut-être Juliette Aimeou. Vous commencez votre livre par cette histoire qu'on découvre avec Charlemagne qui décide de ne pas marier ses filles par choix délibéré. L'auteur de cette monographie nous explique « Marier les filles, c'est prendre le risque que leur mari et descendants ne revendiquent une part du pouvoir royal ou ne secouent la tutelle de la dynastie qui était à l'époque très très jeune des Carolingiens. » Juliette Aimeou, expliquez-nous ce qui s'est passé autour des filles de Charlemagne.
Alors, je précise que ce chapitre a été écrit par Emmanuel Santinelli-Foltz. Vous l'avez très bien résumé, hein. Il y a vraiment une considération dynastique, une inquiétude quant à la succession et donc la nécessité de ne pas multiplier les alliances avec le risque, quand on a des alliances, de faire des descendants et donc d'avoir des querelles de succession. Donc là, c'est vraiment un choix politique que décrit Emmanuel Santinelli-Foltz, avec tout de même la nuance que... Donc ces filles de Charlemagne, effectivement, ne se sont pas mariées, en tout cas pas officiellement. Mais ce qu'elles montrent, c'est qu'il y a d'autres formes de mariage social, on pourrait dire, et qu'en fait, elles vivent à la cour carolingienne avec des compagnons qui
oui.
font partie de l'élite franque.
Elles sont,
et
elles-mêmes,
sont considérées...
voilà, elles sont elles-mêmes mères et compagnes. Donc peut-on
voilà.
dire qu'elles sont célibataires ? Elles ne sont pas sur le marché officiel de la transmission de patrimoine, en quelque sorte, mais ou de la transmission du pouvoir dynastique, mais quand même, elles vivent une vie de mère et de compagne.
C'est
un drôle
ça,
de célibat,
là,
oui.
Exactement, c'est un drôle de célibat, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu inclure ce chapitre dans le livre, parce que ça questionne, en fait, la définition qu'on donne au célibat. Est-ce qu'on peut appliquer une définition très... contemporaine du célibat au IXe siècle. Est-ce qu'on ne doit pas à chaque fois s'inscrire dans l'espace géographique et dans le temps où on étudie les cas ? Et là, c'est un célibat parce qu'il n'y a pas de mariage ni devant l'Église, ni d'acte réellement pour acter hein, le mariage. Mais ce n'est pas vraiment un célibat dans le sens où vous venez de le dire, hein, elles sont compagnes et mères.
Dominique de Montléon-Cabaret, est-ce que vous êtes sensible à cette diversité des célibats dans l'espace et dans le temps, tel que vient de nous l'expliquer Juliette Aimeou ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté au fil de vos recherches depuis longtemps ?
Alors, le mot célibataire a aujourd'hui beaucoup de sens. Il est employé par beaucoup de personnes.
Oui.
Comme on le disait, le point généralement, c'est le fait de ne pas vivre en couple. Le point qui réunit toutes les définitions du célibataire. Mais vous avez des personnes célibataires qui s'appellent célibataires et qui se disent célibataires, mais qui, le week-end, ont une aventure ou un lien affectif avec quelqu'un.
Mmh.
Voilà. Bon, nous sommes intéressés plutôt au fur et à mesure des différents auteurs. On est parti aussi du point de vue historique, sociologique... psychologique, philosophique, théologique, pastoral, enfin, il y a tous ces points de vue-là, tous ces angles de vue qui sont traités par différents auteurs. Mais on a regardé aussi le cœur seul qui désire se marier et qui ne comprend pas ce que signifie ce temps d'aujourd'hui.
Ça reste une interrogation fondamentale.
Ça reste une interrogation, mais il y a quand même eu de belles réponses qu'ont donné les auteurs dans ce livre.
Oui, qu'on peut découvrir.
Pour mettre en appétit.
Je rappelle le titre de votre livre, Célibataire, votre vie a un sens, c'est publié aux éditions Saint-Paul. Alors, au fil de cette galerie de portraits que vous décrivez, Juliette Aimeou et Claire-Lise Gaillard, il y a des mots qui ressortent pour qualifier les célibataires, les demoiselles, les damoiseaux, les vieilles filles, les vieux garçons, les libertins, les noceurs, les catrinettes, les sans-famille, les solitaires, les disponibles, les libres penseurs et penseuses. On voit cette grande diversité. Claire-Lise Gaillard, je voudrais vous interroger autour d'un homme que vous mettez en scène, qui s'appelle Alexandre Brongniart, qui a vécu de 1770 à 1847. Il est le fils de Théodore Brongniart. Les Parisiens connaissent ce nom de Brongniart puisque c'est le palais Brongniart, la bourse de Paris. Alors, Alexandre Brongniart était un ingénieur des mines. Et il était assez pauvre, son niveau de vie ne lui permet pas de contracter un mariage. Et c'est l'occasion pour vous, dans votre livre, de mettre en évidence ce que vous appelez le sacerdoce savant, avec cette différence autour du célibat des savants qui est valorisé en Europe de l'Ouest, mais qui, par exemple, en Allemagne, au contraire, n'était pas du tout valorisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Claire-Lise Gaillard ?
Alors, c'est un chapitre que l'on doit à Mathias Valverde, qui a utilisé en fait une source tout à fait intéressante qui est le journal d'Alexandre Brongniart.
Journal très intime.
Un journal intime, oui. Effectivement, et qui donne l'occasion d'avoir justement une entrée intime sur un vécu masculin du célibat. Et ça donne à voir justement cette ambivalence entre l'envie d'accéder à une sexualité prénuptiale et les difficultés qu'il y voit, et les difficultés qu'il a aussi à se marier et à combiner ça avec sa carrière savante. Mmh. Dans un moment où, comme vous l'avez dit, se construit la représentation du sacerdoce savant, du savant célibataire, même de l'homme de lettres célibataire qui se consacre à la science plutôt qu'à sa famille. Et en fait, c'est une thématique qui est assez transversale dans le livre, parce que on peut la retrouver aussi chez François-Antoine Devaux dans le chapitre rédigé par Margot Prunier,
qui est un littérateur célibataire.
Voilà,
pour sa part.
Oui. Qui lui met en scène son célibat dans ses lettres qu'il sait devoir être publié ensuite, et qui se donne à la littérature plutôt qu'à une famille. Et on a aussi un pendant féminin de ce célibat savant, mais qui se traduit différemment. Par exemple, Gertrude Bell, qui est une archéologue du tout début du XXe siècle.
Oui, qui a vécu de 1868 à 1926.
Voilà.
Une femme aventurière, comme on aurait dit, c'est ça ?
Tout à fait.
Oui.
Et dans le cas du célibat savant des femmes, la question se pose autrement. En fait, souvent, elles restent célibataires pour pouvoir continuer d'être archéologue ou d'être scientifique diversement, parce que le fait de se marier les ramène au statut d'épouse, et donc parfois risquent de cacher leur production scientifique derrière le nom de leur époux. Ce n'est pas le cas de Gertrude Bell, puisqu'elle a voulu se marier, et en fait elle était quelque part devenue trop indépendante pour réussir à se marier, mais c'est aussi cette indépendance qui lui a garanti sa carrière d'archéologue.
Alors, encore juste un mot peut-être, si vous le voulez bien, Claire-Lise Gaillard, sur Alexandre Brongniart. Expliquez-nous quand même comment se fait-il que, je cite l'auteur, le célibat des savants est valorisé en Europe de l'Ouest, et à l'inverse, dans l'Allemagne luthérienne, le mariage des savants était encouragé, donc au tournant du 18e et du 19e siècle. Pourquoi donc ?
Alors ça, c'est une question à laquelle on pourra répondre lorsqu'on aura écrit une histoire du célibat, une synthèse d'histoire du célibat en Europe occidentale.
Cela, vous le ferez un jour.
Alors nous, d'autres en tout cas, on ne pourra pas le faire seul. C'est justement pour ça qu'on a aussi écrit un collectif, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir justement à la circulation des modèles et les temporalités différentes des modèles de célibat valorisés ou non en Europe. Et donc ça, ce sera pour un prochain ouvrage.
Les racines du présent. RCF.
Au micro, Frédéric Mounier, cette édition des Racines du Présent s'intéresse aux racines du célibat, ou plutôt des célibats, car nous prenons conscience au fil de notre conversation que les célibats ont été extrêmement divers dans le temps et dans l'espace. Nous sommes en compagnie de deux jeunes historiennes, Juliette Aimeou et Claire-Lise Gaillard, qui ont co-signé avec de nombreux auteurs une histoire de célibat du Moyen-Âge au XXe siècle, c'est aux Presses universitaires de France, et puis également en compagnie de Dominique de Montléon-Cabaret, qui est co-autrice avec Claire Le Secrétin, ancienne journaliste à La Croix, est d'un livre publié aux éditions Saint-Paul intitulé « Célibataire, votre vie a un sens, de nouvelles perspectives en Église ». Alors Juliette Aimeou, je voudrais que vous brossiez pour nous le tableau d'une femme sur laquelle vous avez travaillé particulièrement. Cette femme se nomme Henriette de Conflans. Elle a vécu de 1632 à 1712 et c'était une fille majeure. Elle n'était ni mariée ni religieuse. Comment cela se pouvait-il à cette époque, au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle, Juliette Aimeou?
Alors justement, le statut de fille majeure, c'est vraiment une nouveauté, une invention du XVIIe siècle. Et j'ai pu constater dans ma thèse qu'un certain nombre de femmes nées dans la noblesse, dans les élites économiques de France, ne se marient pas et ne prennent pas le voile pour autant. Et donc, dans les actes qu'elles rédigent chez le notaire, elles se qualifient de filles majeures, usantes et jouissantes de leurs biens et droits, pour la titulature intégrale. Et moi, ces femmes, elles m'ont particulièrement intéressée parce que elles ont effectivement des biens dont elles peuvent jouir. Voilà, elles ont des biens en propre qu'elles gèrent seules, sans tutelle, puisqu'elles ont atteint et dépassé, voire très largement, l'âge de 25 ans, qui est l'âge de la majorité. Et donc, à partir de 25 ans, elles gèrent leurs biens presque comme bon leur semble.
En l'occurrence, Henriette de Conflans était ruinée. Sa famille avait fait de mauvais placements, disons, ou avait dilapidé sa fortune. Et donc, elle était ruinée. Alors, comment a-t-elle fait pour vivre ou pour survivre dans cet ordre social de l'Ancien Régime, Juliette Aimeou?
Et bien donc c'est là que les sociabilités ici féminines entrent en jeu, puisque Henriette de Conflans a bénéficié de la protection d'une de ses amies d'enfance, Anne de Harville, qui est devenue duchesse et qui a donc pu l'accueillir chez elle. Au sein de cette résidence prestigieuse en plein Paris, Henriette de Conflans a noué un certain nombre de relations avec le beau milieu parisien, le milieu lettré parisien, notamment Bussy-Rabutin, qui était le cousin de Madame de Sévigné et qui était un grand littérateur lui aussi du XVIIe siècle. Et en fait, petit à petit, grâce à ces solidarités diverses, elle a pu faire des emprunts et peu à peu reconstruire la fortune familiale. Et donc, à la fin de sa vie, je la vois très bien entourée, riche à nouveau, installée dans son propre hôtel, en tout cas dans son propre appartement, avec une grande variété de biens de luxe qui sont inventoriés dans son inventaire après décès.
Et elle termine sa vie même en apothéose, puisqu'elle fait de sa tombe le lieu d'expression de sa réussite sociale. Elle décrit très précisément la tombe qu'elle souhaite, et c'est un monument à sa propre gloire, en quelque sorte.
Exactement. Elle demande à ses héritiers de lui construire une tombe, un tombeau en marbre. Et voilà, elle organise sa succession pour faire en sorte que sa mémoire soit conservée, la mémoire d'une femme seule qui, avec son courage et sa force, a rebâti la fortune familiale.
On sent un soupçon d'admiration dans vos propos, Juliette Aimeou, sur cette femme sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Dominique de Montléon-Cabaret, quel regard vous portez sur cette... Est-ce qu'on peut parler d'une réussite de femme célibataire au XVIIIe siècle? C'était possible?
Alors, je ne connais pas l'histoire des femmes célibataires au XVIIIe siècle.
Est-ce qu'une femme peut s'émanciper à travers le célibat? Tel est le sens de ma question.
Alors oui, bien sûr, une femme peut s'émanciper à travers le célibat. D'abord, certaines femmes sont heureuses d'être célibataires, et d'autres, beaucoup d'autres, il faut regarder les choses en face quand même, beaucoup en souffrent. Et pourtant, elles n'ont pas l'air malheureuses. C'est assez curieux.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je citerai une, une amie célibataire qui dit « Je ne suis pas heureuse d'être célibataire, mais je suis une célibataire heureuse. »
Alors, expliquez-nous.
Je ne suis pas heureuse d'être célibataire, décoder. C'est-à-dire cette situation de célibataire, j'aurais préféré être mariée. Avoir des enfants, être grand-mère, être arrière-grand-mère, enfin tout ce que vous voulez, enfin bref. Et, mais je suis une célibataire heureuse, c'est-à-dire que j'ai du bonheur dans ma vie. Il y a tous et chacun, on a une part de bonheur. Mais dans le bonheur, la recherche de bonheur, c'est soi-même c'est notre liberté qui choisit le bonheur.
Et ça reste possible
et
pour
ça,
chacun
ça reste
et chacune.
Pour chacun et chacune.
Clarisse Gaillard, vous voulez réagir ?
Oui, pour rebondir sur cette idée que le célibat peut émanciper les femmes, dans le livre, on a un chapitre consacré à Madeleine Pelletier, qui est un chapitre de Geneviève Guilpin. Et justement,
un célibat militant.
Voilà.
C'est ça.
Madeleine Pelletier considère justement que le célibat est la seule option possible pour les femmes. Tant que l'égalité entre les sexes n'est pas acquise. Parce que tant que l'égalité entre les sexes n'est pas acquise, le mariage est une oppression. Donc elle considère son célibat comme un célibat militant qui n'est possible que pour les femmes d'exception qu'elle reconnaît en elle-même et en Ariely, qui est son interlocutrice dont on
nous sommes
on
là
a
au début du
XXe
siècle. Hein.
Voilà.
C'est ça l'époque. Oui.
Tout à fait.
Ça se termine pas bien, puisque si je vous ai bien lu, Madeleine Pelletier meurt à l'asile et son amie Ariely se suicide.
Oui, tout à fait. On voit là tout à fait en fait les contraintes qui pèsent sur les femmes célibataires qui peuvent être certes émancipées d'une certaine manière, et Madeleine Pelletier est un symbole d'émancipation de ce point de vue-là, mais en fait qui sont sans cesse ramenées à des stéréotypes, à des contraintes et en fait à une société qui ne leur laisse pas de place, et leur destin individuel est la conséquence aussi de ces normes qui ne leur laissent pas de l'expression possible.
Alors, on va poursuivre ce voyage à travers les stéréotypes, justement. On va écouter Sacha Distel. Les plus anciens d'entre nous se souviennent de ce Frank Sinatra à la française. C'était dans les années 70 et Sacha Distel nous proposait une chanson intitulée « Les célibataires ». On va voir justement quelle est la figure de célibataire à travers cette chanson. On écoute.
Les célibataires sont bien malheureux, les célibataires, il faut prier pour eux. Toujours solitaires, les pauvres chéris, dans leur garçonnière, couchent tout seuls dans leur lit. Quand monsieur est au bureau, madame va se promener, mais comme elle n'a pas d'auto et qu'elle est bien vite fatiguée, les célibataires qui sont très galants ouvrent leurs portières et madame monte devant. Les célibataires aiment bien les maris, ils les considèrent comme leurs meilleurs amis. C'est par gentillesse qu'à l'heure du dîner, ils trouvent un prétexte pour se faire inviter. Ils reprennent de tous les plats parce qu'ils trouvent ça bon. Et quand votre mari s'assoit devant la télévision, dans l'ombre il vous vole un petit baiser. Pendant que somnole votre époux fatigué, ceci prouve en vérité, messieurs les maris, que si vous êtes trompés, c'est que votre femme est jolie, que c'est votre faute si elle va chercher dans les bras d'un autre ce que vous lui devez. Et bien faites comme moi, vous mariez pas.
Voilà, c'était une chanson totalement oubliée, il faut bien le dire, de Sacha Distel, intitulée « Les célibataires ». C'était dans les années 70. Alors, Claire-Lise Gaillard, vous co-signez avec Juliette Aimeou et de nombreux autres auteurs une histoire de célibat du Moyen-Âge au XXe siècle. C'est aux Presses universitaires de France. C'est pas du tout votre génération, ça. Et comment est-ce que vous avez entendu cette chanson où Sacha Distel met en scène des célibataires qui sont en fait ce qu'il appelle gentiment des galants, en fait des dragueurs, des trompeurs de mari?
Ce que j'y ai entendu aussi, c'est le thème de la solitude qui est aussi revenu dans nos discussions. Et en fait, c'est effectivement quelque chose qui revient pas mal dans les représentations, que les célibataires seraient malheureux parce que seuls. C'est quelque chose qui est entretenu dans les moments de stigmatisation du célibat, qui sont aussi des moments où on cherche à repeupler le pays, par exemple à la fin du XVIIIe siècle, à la fin du XIXe siècle, après la Première Guerre mondiale, lorsqu'on dénonce le fléau du célibat, ben forcément ça s'accompagne d'une description de tous les inconvénients d'être célibataire, et la solitude fait partie de ces inconvénients-là. Et justement, l'intérêt qu'on a cherché à montrer dans ce livre, c'est que de regarder des trajectoires individuelles et donc de regarder les liens que les individus entretiennent en dehors du mariage, donc, et parfois en dehors de la famille, ça permet de relativiser un petit peu ce stéréotype de la solitude. Et on voit qu'en fait, les célibats peuvent être justement l'occasion d'entretenir des sociabilités différentes, de penser la postérité différemment. On en a vu un exemple avec Henriette de Conflans, mais dans les milieux littéraires de la fin du XVIIIe siècle, par exemple, il y a aussi cette idée-là de postérité littéraire. Et donc il y a quelque chose d'intéressant, en fait, par le célibat, à mettre le focus sur d'autres types de relations non familiales et non maritales.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Dans cette édition des Racines du Présent, pardon, nous partons à la rencontre du célibat, plutôt des célibats, à travers l'histoire des célibats dans le temps et dans l'espace. Nous sommes en compagnie de Dominique de Montléon Cabaret, co-autrice avec Claire Le Secrétin, ancienne journaliste à la Croix, d'un livre intitulé « Célibataire, votre vie a un sens, de nouvelles perspectives en Église » aux éditions Saint-Paul. Et puis de Juliette Aimeou et Claire-Lise Gaillard qui co-signent avec d'autres auteurs une histoire de célibat, au pluriel, du Moyen-Âge au XXe siècle aux Presses universitaires de France. Alors, Dominique de Montléon Cabaret, vous vous êtes intéressé à l'univers chrétien au sens large. Il y a des figures particulières et quand même renommées de célibataires, notamment au XXe siècle. Je veux parler par exemple de Madeleine Delbrel ou de Marie-Noël. En quoi ces figures sont-elles importantes dans cet imaginaire collectif catholique du XXe siècle, Dominique de Montléon Cabaret?
Madeleine Delbrel, c'est Stéphanie Lefebvre qui la présente dans le livre. Effectivement, elle a vécu seule, célibataire, mais seule, mais pas solitaire. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a assez vite réuni plusieurs femmes autour d'elle, des équipières, pour servir les pauvres, les gens de la rue, nous autres gens de la rue.
Donc Madeleine Delbrel n'était pas consacrée?
Elle n'était pas consacrée. Pour elle, enfin, de ce que je sais, pour elle, il faudrait demander à la spécialiste Stéphanie, pour elle, c'est le baptême qui est primordial. Mmh. Et de fait, c'est ce qu'on a vu aussi au cours du séminaire de recherche et des colloques. Plusieurs auteurs ont souligné, comme par exemple le père Théobald, que le baptême est la vocation fondamentale, unique.
Donc là, il s'agit de se mettre au service. Madeleine Delbrel, voilà, avec ses amis, s'est mise au service.
Oui.
C'était ça le sens qu'elle a donné à son célibat.
C'est ça qu'elle a donné comme sens à son célibat. Oui. Et du coup, il y a une telle proximité avec d'autres personnes qu'il y a une guérison de la solitude. C'est vrai qu'on a un besoin assez inscrit, semble-t-il, dans notre nature et par notre sexualité, de trouver l'âme sœur à qui on se donne et qui se donne entièrement à nous. Mais il y a d'autres possibilités pour être heureux.
C'est peut-être ce que vous évoquiez tout à l'heure, Claire-Lise Gaillard, quand vous évoquiez cette façon différente de penser la postérité ou cette façon différente de penser les sociabilités, ce qu'on vient de dire de Madeleine Delbrel, ça rentre dans ce cadre-là?
Oui, tout à fait. En fait, regarder le célibat, c'est aussi une manière de penser différemment les amitiés entre femmes, qui sont un véritable sujet. Aussi les amitiés entre les sexes, qui étaient quelque chose d'important dans le milieu littéraire de la fin du XVIIIe siècle, par exemple, qui devient plus compliqué à penser au XIXe siècle. Mais effectivement, c'est une manière de voir d'autres types de relations, même dans la famille, et de... Voilà, d'interroger des liens qui...
De diverses façons.
De diverses façons, et surtout de faire un pas de côté en tant qu'historienne et pour d'autres de sociologues, de faire un pas de côté par rapport au focus conjugal et matrimonial par lequel on a l'habitude d'interroger les individus.
Alors ce pas de côté, Dominique de Montléon Cabaret, la poétesse Marie-Noël l'a fait également, et vous l'évoquez dans votre livre.
Alors, Marie-Noël, c'est Xavier Galmiche qui en parle. Marie-Noël, oui, elle s'appelle vieille fille. Elle se traite de vieille fille avec humour. Elle a souffert dans son affectivité. Elle se croyait aimée de quelqu'un. C'était un peu un rêve, peut-être un petit peu adolescent, qui est parti sans rien dire, parce que lui devait sans doute ne pas beaucoup penser à elle. Et elle a beaucoup souffert de son célibat. Mais même chose, elle a... Dans sa paroisse, elle a repéré les autres vieilles filles et elle s'est dit « mais il faut leur donner de la joie, il faut qu'on se retrouve, qu'on se donne de la joie, de jolis instants », selon son expression.
Et donc, ça a été son œuvre littéraire qui a permis cela.
Son œuvre littéraire, heureusement, je crois qu'elle a été célibataire parce qu'elle a tellement exploré la souffrance, la faiblesse de nos cœurs, qu'elle est étonnante de vérité sur nous-mêmes. Je trouve que c'est toujours étonnant. Et en même temps, elle rend très, de façon percutante, le regard de Dieu sur chaque personne, qui est un regard unique. Voilà.
Alors,
le poème de Marie-Noël qui s'appelle « Assomption », lisez-le, c'est extraordinaire. C'est la mort d'une vieille fille domestique, sans famille, sans rien, sans personne, qui a toujours une vie compliquée, difficile. Et c'est son entrée au ciel. On voit comment elle est accueillie. C'est extraordinaire, cette espèce de distorsion entre le ciel et la terre.
Nous arrivons au terme, malheureusement, de cette conversation absolument passionnante. Mais j'ai relevé dans votre livre, Dominique de Montléon Cabaret, une appréciation que je voudrais soumettre à nos deux jeunes historiennes pour avoir leur réaction. L'un de vos auteurs écrit, Dominique de Montléon Cabaret, « La dépréciation du célibat féminin et la maigre place qu'il occupe dans les recherches participe d'un processus d'invisibilisation des femmes libres ou libérées dans le contexte d'une société patriarcale. Un processus d'invisibilisation des femmes libres ou libérées dans le contexte d'une société patriarcale.
Oui, c'est Geneviève Guilpin.
Voilà. Est-ce que vous pourriez écrire cela ou souscrire à cela, Juliette Aimeou, à partir de vos recherches ?
Alors moi, la question de la liberté m'a beaucoup intéressée, et aussi la question du choix. Et en fait, mais plutôt pour les éloigner de mon terrain, parce que cette question du choix, le terme choix, la conception le concept de choix, c'est pour moi quelque chose d'assez contemporain. Et dans une société d'époque moderne, donc on va dire au XVIIe siècle, où les décisions se prennent à l'échelle de la famille, du lignage, de la dynastie. Les individus ont peut-être moins ces questions de choix en tête, de choix individuel.
La question du choix ne se posait pas.
Voilà, la question du choix ne se pose pas, et donc la question de la liberté, de se libérer, ne se pose peut-être pas non plus. Moi, les individus que j'ai étudiés, des hommes et des femmes nobles, ne se plaignent pas en fait de leur situation. Enfin, je pense que c'est même pas quelque chose auquel ils réfléchissent. Oui. C'est comme ça.
Voilà. Oui, nous sommes dans une société d'ordre où les choses sont ordonnées et chacun a sa place.
Voilà, et chacun trouve sa place, a une place importante à l'échelle du lignage. Les célibataires, ce sont des oncles et des tantes qui s'occupent de leurs neveux, qui vont amasser un patrimoine pour pouvoir le donner à leurs neveux et nièces. Et en fait, chacun trouve sa place.
Chacun a un rôle social, même dans une société où les rôles sont prédéterminés. Claire-Lise Gaillard.
Oui, effectivement, cette question du choix, moi, en tant qu'historienne du 19e et 20e siècle, je la vois, en revanche, beaucoup plus advenir et progressivement. Voilà. Mmh. Et particulièrement à partir de la fin du 19e, début 20e siècle, je le vois donc en matière de choix du conjoint dans les annonces matrimoniales et dans l'article que je consacre à Joseph-Antoine Canasi.
Qui était donc un soldat corse, je le rappelle, qui a vécu de 1880 à 1960. Il s'est marié à 56 ans et ça a été pour lui très compliqué.
Précisément parce qu'il avait trop de choix. Oui. En tout cas, c'est ce qu'il dit, parce qu'après la Première Guerre mondiale, il a le sentiment, comme beaucoup d'hommes de sa génération, qu'il va avoir le choix parmi une génération de femmes dans lesquelles le célibat est massif, puisque beaucoup d'hommes sont morts à la guerre. Et parce qu'il a ce sentiment de pouvoir faire un meilleur mariage que possible, en fait, il retarde toujours l'échéance parce qu'il espère pouvoir combiner au mieux tous ses critères. Et il finit par abandonner cette idée-là et se marier en fait avec une femme de son village.
Voilà,
qu'il aurait pu épouser bien plus tôt et quelque part il abandonne sa quête. Mais pour revenir à votre principale question
sur l'invisibilisation des femmes libres ou libérées dans le contexte d'une société patriarcale.
Je souscris tout à fait à cette idée et on le voit notamment dans les écrits antiféministes depuis, pour ce que je connais, du 19e siècle et 20e siècle. Les féministes sont souvent taxées de vieilles filles.
Ah oui.
Et ça participe à leur délégitimation. Et lorsqu'on regarde les caricatures des suffragettes, par exemple, elles sont représentées véritablement comme des vieilles filles desséchées.
Ou bien hystériques.
Ça va ensemble,
ça
effectivement.
Va ensemble,
inattirantes au possible, qui, de ce fait, n'ont pas de conscience politique. C'est simplement la folie de leur célibat qui les amène à revendiquer des droits.
Dominique de Montléon-Cabaret, est-ce que cette question du choix, qui on vient de le voir par Claire Lise, qui nous explique à quel point il a fait irruption à partir du XXe siècle, est-ce que cette question du choix n'est pas aujourd'hui vertigineuse pour les hommes et pour les femmes célibataires qui, vous l'avez dit tout à l'heure, éprouvent des difficultés à faire un choix de relation affective ?
Oui, c'est surtout, j'allais dire, pour les hommes. Et puis... Cette tendance à l'heure actuelle à avoir du mal à accepter des frustrations, finalement. Personne n'est parfait. Donc, c'est vrai que quand on met une annonce dans une agence pour un site de rencontre...
Oui, aujourd'hui, c'est plus les agences matrimoniales, c'est des sites de rencontre.
C'est différent. On peut avoir des critères et le propre des sites de rencontre, on a un article... écrit par deux fondateurs de sites de rencontres qui montrent qu'il faut être capable de bouger ces critères et de s'ouvrir à la réalité et de se laisser surprendre par l'imprévu. Voilà, on croit qu'on peut tout choisir, mais il y a la vie, il y a l'imprévu, et la vie souvent est plus belle que nos choix petits étriqués.
Claire-Lise Gaillard, vous avez étudié ce fameux marché de la rencontre, donc au 19e et au début du 20e. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce marché s'est transporté sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez le sentiment que ça facilite la vie ou que ça complique la vie des personnes qui vivent seules ?
Alors ça, je ne suis pas sociologue pour le dire, mais en revanche, ce que j'ai constaté dans ma thèse, c'est que les gens dans le marché de la rencontre donnent des critères très précis et ils ne s'y inscrivent pas pour faire des concessions d'abord. Mais en fait, ce que j'ai regardé en comparant les annonces féminines et les annonces masculines d'un même numéro de journal d'entre-deux-guerres, par exemple, c'est que si personne ne faisait des concessions, personne ne se marie. En fait, personne ne match critère par critère.
Ne peut se rencontrer, oui.
Voilà. et donc, pour que des mariages aient lieu, il y a quand même à peu près 13% de mariages qui ont lieu dans le journal que j'ai étudié dans l'entre-deux-guerres.
Ah oui, donc ça marche.
Ça marche ça match parce que il y a des concessions qui sont faites, et majoritairement, dans le contexte de l'entre-deux-guerres, les concessions sont faites par les femmes, pour que ça fonctionne.
Aujourd'hui, Dominique Dumont-Léon-Cabaret, vous avez l'impression que les réseaux sociaux, ça facilite les choses, ou qu'au contraire, ça les complique ?
J'ai plutôt l'impression, mais je ne suis pas la bonne personne pour répondre à la question. L'impression que j'ai, quand je rencontre des célibataires plus jeunes, c'est leur difficulté à se rencontrer en vérité. Surtout pour les Parisiens et les grandes villes, ils ont beaucoup d'activités, beaucoup de rencontres, beaucoup de sorties, beaucoup de tout ce qu'on veut. Mais quand est-ce qu'on parle tranquillement, en prenant le temps, en vérité, en se connaissant, sans paraître et en étant?
Mais en vérité.
En vérité.
Est-ce pour
et
cela
c'est comme
que...
ça que ça peut oui. matcher.
Est-ce pour cela que... Alors, je ne sais pas si c'est vous, Dominique de Monero Cabaret, qui écrivez ça, ou l'un de vos auteurs, mais j'ai relevé dans votre livre, donc intitulé « Célibataire, votre vie a un sens », cette phrase « Les célibataires sont aujourd'hui aux avant-postes de la recherche de sens ».
Alors, c'est Claire Le Segretin qui cite le père Michel Bureau, jésuite, qui est décédé maintenant, et qui disait, et c'est bien ce qu'on a revu dans ce séminaire de recherche et ses colottes, que vraiment, les célibataires sont, c'est vrai, aux avant-postes du sens pour plusieurs raisons. Alors, d'abord parce qu'ils renvoient pour le chrétien, alors je parle des célibataires chrétiens,
allez-y.
Ils renvoient au baptême, qui est la seule, la seule raison de vivre et d'exister, c'est-à-dire de trouver notre bonheur en Dieu avec des frères. Avec des frères. Mais pour la recherche du sens, ça n'est pas réservé, j'allais dire, aux chrétiens et aux baptisés.
On l'espère.
Heureusement. Sinon, ça ne serait pas drôle. La recherche du sens, c'est que les célibataires ont une capacité, quand ils sont en vérité, et en fait, il y en a beaucoup comme ça, à aider à ce que la fraternité et l'amitié se développent. Il y a comme quelque chose de chez les célibataires où justement ils ne jouent pas un rôle qu'on peut parfois jouer quand on est marié, en parlant de ses enfants, de la situation de son mari, enfin, etc., des normes sociales.
Voire de sa propre situation.
Voilà, voilà, voire de sa propre situation, bien sûr. Ils sont un peu hors normes sociales et du coup, ça permet que les relations soient plus vite en vérité et plus légères. Ils apportent des climats de légèreté, j'ai remarqué beaucoup ça, dans les réunions où il y a tous les états de vie, c'est beaucoup plus léger, drôle, gai, naturel quand il y a aussi des personnes célibataires.
Un dernier mot peut-être, Claire-Lise Gaillard, comment vous voyez l'avenir du célibat? Vous pensez qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont vivre seules dans notre monde tel qu'il est aujourd'hui?
Alors là-dessus, je vous recommande la lecture de Marie Bergström, qui est une collègue sociologue de l'INED qui travaillait d'abord sur les sites de rencontres et aujourd'hui qui s'intéresse aussi à la question du célibat. Et elle montre justement que l'horizon reste quand même le couple aujourd'hui. Ouais. Simplement, il y a quand même une diversification des parcours de vie, une déstandardisation des parcours de vie. Au fil de la vie, oui, c'est ça. Donc il y a une plus grande acceptation des parcours différents plusieurs années.
On peut multiplier les états de vie différents.
Voilà, on peut multiplier les types de relations, cohabitantes, non cohabitantes, etc. Avec quand même, dans les représentations, cet horizon du couple.
Eh bien, un grand merci à vous toutes pour cette passionnante conversation autour de du célibat, des célibats, dans le temps, dans l'espace, dans l'Église et ailleurs. Je rappelle que nous étions en compagnie de deux jeunes chercheuses historiennes, Juliette Emeou et Claire-Lise Gaillard, que je remercie pour leur disponibilité, qui publient aux Presses universitaires de France une histoire de célibat au pluriel du Moyen-Âge au XXe siècle. Et donc, c'est donc une galerie de portraits dus à différents auteurs, absolument passionnante et qui montre la diversité des différents statuts de célibataires à travers notre histoire. Et puis, je remercie également Dominique de Montléon Cabaret, qui a co-signé avec l'ancienne journaliste à la Croix, Claire Le Segretin, un petit livre aussi également passionnant intitulé « Célibataire, votre vie a un sens, de nouvelles perspectives en Église ». C'est aux éditions Saint-Paul. Un grand merci enfin pour terminer à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF. Et puis vous pouvez bien évidemment écouter et réécouter Ad Libitum et à satiété en balado-diffusion et en podcast à partir de vos plateformes de podcast favorites les précédentes éditions des Racines du Présent, puisque nous existons déjà depuis 4 années. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.